de Vive Havel, vive le président, la foule massée devant le château de Prague a accueilli Václav Havel, le nouveau visage de la démocratie retrouvée en Tchécoslovaquie. Je vous remercie tous, Tchèques et Slovaques, et toutes les nationalités de notre pays, pour votre soutien. Et je vous promets de ne pas trahir votre confiance et de conduire ce pays vers les élections libres. C'est un moment unique et une bonne occasion pour boire le champagne. Cette élection, c'est le premier pas vers la liberté et la démocratie.
Je suis très enthousiaste. J'attendais ce moment depuis des années.
C'est l'homme juste, à la juste place.
Le JT de la 3 du 29 décembre 1989 présentait ainsi à Prague la première apparition publique du nouveau président par intérim qui, quelques semaines auparavant, était encore dissident et au début de l'année en prison pour ce même crime d'opinion. Bonjour et bienvenue dans cette sixième visite de la saison 3 du Panthéon décousu sur Radio Alpa et radioalpa.com. Après la Hongrie la semaine dernière et avant quatre autres pays, suite de notre série sur les 30 ans de la chute du mur dans l'histoire chaotique d'un pays longtemps francophile. La Tchécoslovaquie naît en 1918 des ruines de l'Empire austro-hongrois et d'une concrétion arbitraire. Au sud, beaucoup de Hongrois peuplent la Slovaquie, au nord, la Bohême a une forte minorité allemande. En 1938, Hitler réclame l'annexion des Sudètes allemands au Troisième Reich. À Munich, dans la précipitation et pensant éviter la guerre, l'anglais Chamberlain et le français Daladier se couchent lamentablement. Non seulement il y eut la guerre, mais en plus il sème un goût de rancœur tenace dans le peuple. En 1945, avec la liberté, le pays retrouve sa démocratie parlementaire. L'historien Marc Ferro, dans un doc de Réalisons l'Europe en 2011, nous dresse le topo.
Les Tchèques se rappelaient, un, que les Allemands avaient détruit leur pays en prenant les Sudètes, deux, en occupant Prague, que les Français et les Anglais les avaient lâchés. Ils étaient pro-russes et pro-soviétiques, mais ils étaient slaves aussi. Donc, d'une certaine façon, en Tchécoslovaquie, la prise du pouvoir a été, entre guillemets, élégante, presque régulière. Les gens n'ont pas senti qu'ils passaient sous un régime totalitaire.
C'est ce qu'on appelle le coup de Prague de 48. Vidéo YouTube du carnet de Tchèque, publié en septembre 2018.
Celle-ci voit la victoire des communistes aux élections de 1946, qui obtiennent 38% des suffrages. Pour comparaison, en France, à la même époque, le Parti communiste enregistre 31% des voix. Communistes tchécoslovaques ont le premier secrétaire du Parti communiste, Clément Gottwald, comme premier ministre. Et surtout, le ministère de l'Intérieur et la Défense sont aux mains des communistes. Ensuite, un élément à comprendre, c'est comment le gouvernement est mis en place en Tchécoslovaquie. Eh bien, le système étant hérité de la Troisième République française, en gros, il y a une chambre des députés qui s'accorde pour mettre en place un gouvernement de coalition en fonction du poids des partis présents à l'Assemblée nationale. Et le président accepte la mise en place de ces gouvernements. Au cas où un gouvernement tombe, le président peut nommer un gouvernement de transition de son choix et donc indépendant de la composition de la représentation nationale. Bref, la possibilité de mettre en place un gouvernement avec zéro communiste.
Là, les communistes demandent davantage de postes importants. Les non-communistes démissionnent pensant que la nouvelle coalition se fera sans les communistes. La pression est orchestrée par des manifestations monstres encadrées par la police complaisante et l'intimidation du président aboutit non seulement à la confirmation des ministres communistes, mais le remplacement des démissionnaires par des communistes.
Des arrestations ont lieu afin de faire taire les opposants et un des événements les plus marquants est la mort de Jan Masaryk après une chute de sa fenêtre de salle de bain.
Jan Masaryk venait de démissionner de son poste de ministre des Affaires étrangères. Longtemps ambassadeur de son pays à Londres, il avait aidé le président Beneš à résister tant bien que mal à l'oppression nazie. Fils de Tomáš Masaryk, philosophe et premier président du pays de 1918 à 1935, il est mort défenestré. Passé pour suicide, cette mort hautement symbolique à Prague, quand on pense aux Hussites, ses opposants du XVIIe siècle, a été définitivement déclarée comme assassinat en 2004. Le pays s'enfonce alors dans le tunnel stalinien jusqu'à l'absurde, l'une des composantes intimes de l'humour tchèque. Exploration. Tout d'abord avec Jean-Gaspard Paleniček, directeur adjoint du Centre culturel tchèque à Paris, toujours dans Réalisons l'Europe.
La phase des années 50, qui est une période, je dirais, rouge sang, avec les grands procès politiques, des énormes purges, beaucoup de prisons et de camps de travail. Il y a eu cette décision au début des années 50 d'ériger un grand monument à Staline. Le projet a mis plusieurs années à se concrétiser. Ce qui est assez particulier, c'est que le monument est inauguré bien après la mort de Staline et même après que Khrouchtchev ait dénoncé les crimes de Staline en 1956. Et au moment où il est inauguré, on commence déjà à parler du fait que ce monument n'a pas sa place ici et qu'il faut le détruire et l'enlever. On l'avait construit de façon à ce qu'il soit là pour les temps éternels, bien sûr.
Désormais, sur cet immense socle de granit trône un gigantesque métronome, l'instrument du temps qui passe inéluctable. S'amorce alors une très longue décrispation du régime, comme nous le raconte Petr Hull, écrivain et à l'époque dissident.
Chaque jour, on a appris qu'il y a une petite liberté en plus. Un jour, on a pu aller voir un film français. Un autre jour, on a pu lire un roman. Cette époque n'était pas du tout démocratique, c'était aussi une dictature. Mais ce n'était pas une dictature sanglante. Et il n'y avait pas de procès politique, et s'il y en avait, c'était avec des sourcils ou une année. Il n'y avait plus d'exécution, la peine de mort existait, mais seulement pour les assassins, etc.
Exemple de procès bâclé avec cette scène de film, un étudiant rentre dans sa chambre universitaire. S'y trouvent trois de ses camarades. Assieds-toi. Tu connais Marketa Popisileva? Bien sûr, les gars, c'est ma collègue de la vôtre. Vous correspondez? Oui. Que lui écris-tu? Que lui as-tu écrit dernièrement? Que penses-tu de l'optimisme? Que veux-tu que j'en pense? Tu crois que... Te crois-tu optimiste? J'aime bien rigoler, je suis plutôt gay. Un nihiliste aussi peut être gay, se moquer des gens qui souffrent. Pour toi, l'optimisme est l'opium de l'humanité. Vous avez trouvé ça. Tu l'as écrit ou non? Ce n'était qu'une plaisanterie. Une plaisanterie. Intéressant. D'après tes autres lettres à Marketa, il ne nous semblait pas que tu plaisantais. Et à quel propos? Qu'est-ce qui te semble drôle? L'optimisme? Le parti? Mais voyons, les gars, je vous en prie, nous te prions de ne plus nous appeler ainsi. Ce n'était que quelques phrases. Je ne pensais pas à ce que j'écrivais. Tu as écrit ce qui était en toi. Si tu avais réfléchi, tu ne l'aurais peut-être pas fait. Là, tu ne nous as rien caché. Et nous savons qui tu es. Qu'as-tu lu de Trotsky? Rien. Te prêter des livres? Non. Tu étais en contact avec des trotskistes? Non. Tu es trotskiste. Nous te renvoyons de l'université des étudiants. Donne tes clés. Ce film est sorti en 69. Il s'agit de l'adaptation du roman La plaisanterie de Milan Kundera. Né en 29, Kundera l'a écrit entre 63 et 65. Grâce à Louis Aragon, Gallimard publie le roman en 68. À cette occasion, l'auteur morave, parfaitement francophone, donne des interviews comme ici à l'ORTF le 10 octobre 68 au micro de Jean Chouquet dans Récréation.
Je suis persuadé que dans le domaine de la culture, que dans le domaine de la littérature, cette autonomie, cette liberté que nous avions déjà 4 ou 5 années restera.
Quand vous faites allusion à ce dilemme, au fond, à ce choix qui est offert aux écrivains tchèques, s'en aller hors de leur pays ou rester, de maintenir ce qui peut être maintenu, vous aurez plus d'action sans doute en restant qu'en partant, n'est-ce pas? Et vous ne pensiez pas à ce moment-là que cela pouvait causer des problèmes?
Oui, je comptais avec les problèmes, avec les ennuis.
Oui.
Nous comptions tout le temps avec ces ennuis, trop dramatisés.
Il y a un sens plus général que vous avez voulu donner au titre, la plaisanterie. Dans ce monde, tout est plaisanterie alors, mais sinistre plaisanterie.
Sa notion plaisanterie a des sens plus abstraits qui dit peut-être quelque chose de la caractère tchèque, parce que le trait le plus sympathique d'un caractère tchèque, si on peut parler d'un génie tchèque, alors c'est le génie d'un humour. C'était aussi le plus fort arme contre la bureaucratie et aussi contre le fanatisme, contre cette mentalité religieuse.
Quand aujourd'hui, écrivez-vous, ou plutôt écrit le narrateur, je songe à ma situation d'alors, par analogie surgit dans ma pensée l'immense pouvoir du christianisme qui suggère aux croyants la notion de son péché fondamental et permanent. Et je passe quelques lignes et vous dites « Telle était mon attitude, et celle de nous tout pareillement, en face de la révolution et de son parti. À son égard, nous éprouvions un sentiment aussi constant qu'incompréhensible de culpabilité. Quand vous parlez d'un sentiment de sacré qui était attaché à la représentation du pouvoir, de l'administration, de la loi, n'est-ce pas ? Vous aviez toujours l'impression d'avoir commis une faute à l'égard du pouvoir.
Oui, c'est ça.
Son analyse est pertinente, non ? Écoutez cet autre extrait.
Le caractère tchèque, c'est un caractère vraiment anti-romantique, anti-mystique, alors toujours anti-fanatique. Un caractère assez rationnel, assez critique, assez analytique, assez sceptique. Comment on peut très bien expliquer par les conditions historiques de développement de ces nations. Le plus grand nationaliste tchèque, ce fameux Masaryk, le président de la Première République tchèque, a commencé sa carrière avec une critique cruelle de tous les mythes nationalistes tchèques. Alors, ce nationalisme tchèque a eu toujours un caractère analytique et critique. Ça, j'aime beaucoup, ce sens d'autocritique. Et naturellement, ce caractère est tout à fait incompatible avec la mentalité de la dictature, avec la mentalité fanatique et religieuse de stalinisme.
Le groupe tchèque The Matadors enregistre le 20 janvier 67 le premier titre de son premier EP, Hate Everything Except Hope Hater. You've no sense for reality, that's why you're full of cat. Girl, what have you to say for yourself? You are arrogant and haughty, like a woman. Who's pretty? Girls, why are you so many in this world? Girl, you are a wonder fool. Nature's well up in your face, and devil's always no grace.
Bouleversé, un homme nous dit. Ils sont venus avec des soldats. Ils veulent tout tenir par la force. Ils veulent tout casser. Quand vous rentrerez en France, racontez cela aux camarades de Charles de Gaulle. 6h30. Arrivée des premiers renforts soviétiques au centre de la ville. Les gens sont consternés. On crie aux Russes, rentrez chez vous, vous êtes des nazis. Parfois, de vieux réflexes se réveillent. Cet homme n'est pas d'accord avec la foule. Il dit que les Russes ont raison. 7h du matin, première édition spéciale de Rudé Pravo, organe officiel du Parti communiste tchèque, annonçant l'invasion des troupes du pacte de Varsovie. Les journaux, les tracts, la radio demandent à la population de garder son sang-froid, de ne pas céder à la provocation. Mais beaucoup ne peuvent retenir leur colère. On entend les cris de « Ruski domoy », Russe, rentrez chez vous. La radio, lorsqu'elle se taira, sera prise en relais par une série d'émetteurs clandestins. 7h30, les premiers chars soviétiques investissent l'immeuble de la radio. Ils feront usage de leurs armes. À ma connaissance, il n'y a pas eu de tir direct dans la foule, mais sur des immeubles. Les balles perdues, cependant, font des victimes. La foule a peur, mais cela ne dure pas longtemps. Elle réagit aussitôt. Les chars continuent à défiler sur le boulevard Venceslas en direction du musée. Vous allez le voir, les chars sont très rapidement entourés par une masse de jeunes surtout qui sifflent, qui huent les troupes, mais qui essaient aussi parfois d'expliquer aux soldats russes qu'ils n'ont rien à faire ici. La plupart des soldats ne s'attendaient pas à cette hostilité. Beaucoup ne savaient pas ce qu'ils faisaient dans ce pays. Certains ignoraient même qu'ils étaient en Tchécoslovaquie. 10h du matin, les chars soviétiques vont essayer de briser les barrages dans les rues voisines de l'immeuble de la radio. Au fur et à mesure de la tension, les troupes soviétiques semblent perdre leur sang-froid. Les Russes tirent aux petits canons dans les barrages. Premier incendie, il est midi. Dans la bagarre, les Russes vont perdre deux chars. Et vous le verrez, la tâche des pompiers est particulièrement difficile. Quant aux ambulances, elles ne parviennent pas toujours aux endroits stratégiques. Pour détruire les chars, ici pas de cocktail Molotov, mais des coups de pioche dans les réservoirs d'essence à l'arrière du char, réservoir d'essence particulièrement vulnérable, puis une allumette.
25 août 68, les troupes du pacte de Varsovie envahissent le territoire pour y remettre de l'ordre. La télévision française est sur place. Façon le mythique 5 colonnes à la une.
Admirable résistance passive de tout un peuple, uni derrière ses chefs emprisonnés, leur permettant finalement de s'asseoir à Moscou à la table de conférence. Mal préparé sur le plan politique, le déploiement de forces échoua. Aujourd'hui, c'est sous la menace d'une nouvelle intervention que le maréchal Gretschko a pu imposer la mise à l'écart de Dubček, Smirkovski, Zatopek même, et tant d'autres. La mort tragique de Jan Palach, l'émouvante unanimité du deuil qui suivit, ne soulevèrent pas de réaction de la part des soviétiques.
Baby Don't Cry par The Stoolmen, groupe slovaque éphémère de 68 à 69. Changement de dirigeant ne veut pas dire assouplissement de régime. Petr Hull.
Le mouvement de jeunesse révolutionnaire, il y avait 19 personnes qui ont été placées devant le tribunal, devant la cour, de la détention préventive, la plupart. J'étais tous les 4 ans en prison. La prison n'était pas pour nous humilier, mais pour nous isoler, pour nous empêcher de continuer.
Tout le monde qui n'était pas d'accord avec le régime se retrouvait ailleurs.
Pavel Fischer, ambassadeur de la République tchèque en France.
Se retrouvait dans des structures parallèles et se formaient des noyaux de résistance dans la culture, ailleurs dans le domaine de l'éducation ou bien dans le domaine de la politique. Ces noyaux étaient quand même encerclés, parfaitement sous contrôle. C'est difficile de dire qui était dissident et qui ne l'était pas. Il n'y avait pas de carte d'adhérent. Il y avait plutôt des actes, des opinions et puis des figures de résistance, de dissidence, comme M. Havel par exemple.
La grande figure de dissidence se densifie, portrait par Pavel Fischer.
Václav Havel, c'est un monsieur du théâtre, c'est un homme de l'écriture, c'est un homme de pensée. Il était toujours original par son approche. Il était très actif dans le domaine du théâtre absurde et il était toujours très engagé dans des grands thèmes de société, de politique, dans des grands thèmes liés à l'homme. Il traitait la condition humaine par le côté absurde. Et ce qu'il disait par rapport aux questions de société ou de politique, c'était toujours très éclairant parce qu'il avait un don de la parole, un don de synthèse, et aussi un don de rassembler des oppositions autour de lui. Et il est devenu petit à petit porte-parole, ou bien porte-plume, d'une certaine réflexion de société chez nous. Il n'était pas le seul, mais il est devenu important dans une liste. Il figurait toujours parmi les gens qui faisaient autorité. Il était ouvrier à l'époque, toujours à deux pas de la prison, car souvent emprisonné, en garde à vue en permanence. Alors, il a pris le courage de s'asseoir et d'écrire une lettre ouverte au président de la République, qui était en même temps ancien chef du Parti communiste tchécoslovaque, donc une autorité. Contester le président, ça ne se faisait pas chez nous. C'était une autorité qui était intouchable. Et cette lettre a été comme une étincelle qui a porté de l'espoir à ce que les choses ne vont pas rester telles quelles.
En 1976, de nombreux intellectuels se réunissent pour tenter d'infléchir le pouvoir. Va naître un texte fondamental pour la suite, la charte 77. Havel y était bien sûr. Mais pas seulement. Petr Hull.
C'était pour la première fois après l'écrasement du processus de démocratisation en 1968 en Tchécoslovaquie, où plusieurs éléments de la société
qui n'acceptaient pas la normalisation et l'oppression. Et... Alors, ils se sont réunis pour discuter quelle est la réponse commune contre cette oppression. Et nous l'avons trouvé. C'était les droits de l'homme. La charte n'était que la défense des droits de l'homme. Et nous n'avons jamais demandé, par exemple, le changement de la Constitution. Et nous avons exigé que le pouvoir d'État qui a signé, qui a adopté et ratifié les deux pactes, il a le devoir de les respecter et de les faire appliquer dans ses propres lois, que le gouvernement le fasse.
En 88, les 20 ans du printemps tchécoslovaque sont passés sous silence sur place, mais l'atmosphère est tout autre. Encore une fois, le géant soviétique y est pour quelque chose, mais Gorbatchev n'a pas le même dessein. Il faut en finir et vite. JT d'Antenne 2, le 18 septembre 88.
20 ans après, c'est en touriste que les soviétiques viennent à Prague, et c'est vers l'est désormais que se tournent les Tchèques, dans l'attente d'une démocratisation. Glasnost oblige, la presse tchèque a introduit le changement. On y parle plus librement et les journaux sont enfin lus. Des sujets comme la drogue, le vandalisme, le sida ne sont plus tabous, mais toujours pas question de toucher à l'histoire. La transparence a ses limites. Il fallait avoir de bons yeux le mois dernier pour trouver dans les journaux tchèques quelques lignes sur le 20e anniversaire de l'intervention soviétique, ce qu'on appelle ici la crise de 68. Paradoxalement, ce sont les signataires de la charte 77, les dissidents, qui profitent le plus de cet espace de liberté. Reprenant courage, ils impriment à nouveau des journaux clandestins, des amizdat. Cela fait un an qu'une douzaine d'opposants, dont l'ancien ministre des Affaires étrangères de Dubček, édite Lidové noviny, le journal populaire.
La dernière fois que la police m'a convoqué, c'était pour me dire que nous n'avions pas d'autorisation. Ils m'ont dit, comment pouvez-vous publier ce journal puisque c'est interdit? Alors j'ai répondu, ce journal n'est pas interdit, il n'est pas autorisé. Ça fait une grosse différence. Ils ont fini par me donner raison.
La direction présente se trouve dans un dilemme. D'un côté, par sa nature, par son origine, elle est antiréformiste, elle est réactionnaire, mais de l'autre côté, est l'obéissance vis-à-vis de l'Union soviétique. Ça leur faisait bien d'obéir à Brezhnev. Ça leur fait moins de bien d'obéir à Gorbatchev.
Sortoir du 18 novembre 2009.
À Prague, le cœur de la révolution bat encore place Venceslas. Elle symbolise le sang versé par les Tchèques contre la dictature communiste. Dans tous les esprits, un seul homme incarne la liberté retrouvée en 1989.
Václav Havel est toujours l'homme politique le plus important de notre pays.
C'est le symbole de la liberté. L'homme qui nous a montré que l'on pouvait dire et croire ce que l'on veut. Il s'est battu pour ça toute sa vie.
Václav Havel prend la tête des manifestations gigantesques organisées sur la place Venceslas en novembre 1989. Le mur de Berlin vient de tomber, mais pas le rideau de fer.
JT France 2, le 18 décembre 2011.
Il est en prison début 89, fin 89, il est à la présidence, il est au château. Et ça, je crois que c'est un symbole très fort. Et c'est pour ça que vous avez évoqué Dalai Lama. Au mois d'octobre, j'étais à Prague pour le Forum 2000. On a eu un lien direct avec Aung San Suu Kyi, l'opposante de Birmanie. Il était un grand soutien aux opposants de Biélorussie, etc. Il s'intéressait à toutes ces causes qui, en apparence, sont totalement sans espoir. Mais son exemple montre que ceux qui sont les réalistes d'aujourd'hui ont parfois des surprises.
Naturellement timide et discret, Václav Havel s'est pourtant fait une place parmi les grands de ce monde. Il mènera d'arrache-pied l'adhésion de son pays à l'Union européenne, finalement conclue en 2004.
Je vous demande de voter oui au référendum sur notre entrée dans l'Union européenne.
L'invasion soviétique, l'écrasement du printemps de Prague, ça c'était un grand traumatisme. Mais ça a été aussi l'échec de l'idée du socialisme à visage humain. Or, les Tchèques avaient non seulement tourné la page de 68 et de l'invasion, mais ils avaient tourné la page du socialisme à visage humain. Et ce qu'ils voulaient, c'est non pas la démocratie dans le cadre d'un régime socialiste, mais ils voulaient tout simplement la démocratie sans adjectif du tout. Et Václav Havel représentait cet espoir-là, cette rupture avec l'ancien régime.
Vous vous souvenez de Kundera disant combien le Tchèque était critique? Eh bien, Havel le fait pour lui-même. Admettez que c'est rarissime chez nous. Soir 3, novembre 2009.
C'est dans ce petit théâtre de Prague où il débuta que Václav Havel a donné rendez-vous à la presse. Après 13 ans au pouvoir, il est revenu à sa passion, l'écriture. Celui que tous appellent encore président Havel apparaît désenchanté. Entouré d'ex-dissidents, il n'hésite pas à faire son autocritique.
La reconstruction de la société civile, totalement détruite par des années de communisme, sera longue et difficile. J'avais tort de penser que cela se ferait plus rapidement. Il faut rétablir l'état de droit pour parvenir à une société plus morale et plus juste. Nous l'avons trop négligé.
Ils ont vaincu le communisme, mais le constat est amer. Mikhaïl Kossab fut le plus proche conseiller du président Havel. Musicien la nuit, ministre le jour. Celui qui négocia le retrait des troupes soviétiques de son pays est le seul dissident des années 80 à figurer dans le gouvernement. Le musicien Mikhaïl Kossab, resté fidèle à ses idées, s'occupe des droits de l'homme sans illusion.
Aujourd'hui, je suis en mission comme un prêtre qui prêche dans une société à qui l'on apprend seulement comment avoir plus d'argent et de succès. Je me sens très seul et pas soutenu dans cette lutte contre la xénophobie et les extrémismes.
Nous voilà rendus au terme de notre périple tchèque. La semaine prochaine, je vous emmène en Pologne. Retrouvez cette visite en podcast sur le site radioalpa.com, sur la page Facebook et le Mixcloud de l'émission. Mais nous ne quittons pas sans musique. Le musicien ministre des droits de l'homme, Michal Kochab, a monté un groupe de jazz rock à la fin des années 70. En 80, il devient plus rock et new wave. Du coup, il est interdit de concerts et d'enregistrements par la censure avant de pouvoir rejouer, comme ici à la télé tchèque, aux alentours de la révolution de velours. Prasky Viber, Olda Aje, Pritej Muj, Olda est mon ami. Bonne semaine à toutes et tous sur Radio Alpa.
Štucel a cipáry saní, stromky vánoční, posílá mi Olda, přítel jediný.
Un politique, c'est pas un roman.
Non, c'est une plaisanterie.
Oui, c'est une plaisanterie, très bien.